Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium. Aujourd'hui, une émission dans le format qui me plaît le plus, pas que j'ai une préférence, soit les formats anthologiques, chroniques ou format rencontre. Aujourd'hui, une émission autour de la fanfiction. Et pour le thème, on a décidé de recevoir Marion Latta qui provient de... Je vais te laisser... l'introduction.
Oui, alors effectivement, je suis ici à l'UQAM, stagiaire Figura NT2 en édition limitée, hein, puisque je vais être là seulement jusqu'en novembre. Très très contente d'être là, du coup, de participer un tout petit peu à l'aventure Pop en stock. Donc merci Jean-Michel. Originellement, moi je suis rattachée à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle.
Ok.
Et je suis donc en thèse. Là, je termine ma deuxième année, pour pas dire que je commence ma troisième, parce que c'est un petit peu la pression. Et effectivement, alors moi j'ai travaillé sur la fanfiction en fait essentiellement pour mon mémoire de maîtrise. Et la question à l'époque de laquelle j'étais partie, c'était quels sont les rapports entre la théorie littéraire et la fanfiction, au sens où il me semblait qu'il y avait quand même des rencontres assez fortes autour de certains concepts un peu phares de la théorie des années 60, qui sont un peu les concepts qui correspondent à une sorte de tournant lectoral. On va mettre le lecteur très en avant. Et moi, qui avais en tête l'existence de cette catégorie-là, je me disais « Ah, mais c'est formidable, effectivement, le lecteur actif, le lecteur qui va produire quelque chose à partir du texte, est-ce que c'est pas le fan de la fanfiction ?» Alors, c'était peut-être un peu naïf comme point de départ, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure, qu'il y avait une différence entre ces concepts-là, la manière dont ils pouvaient fonctionner, et des choses qu'on peut percevoir comme une concrétisation, si on veut, de ces concepts, c'est-à-dire voilà, le lecteur producteur du texte pensé par Barthes, ça c'est pas forcément exactement le fan qui va prendre la plume. En tout cas, ça crée des fortes tensions entre finalement cette réalité-là et la manière dont les concepts fonctionnaient, et notamment des conflits d'autorité en fait, parce que nécessairement, cette littérature-là, en tout cas, enfin, moi j'emploie le terme de littérature, mais c'est quelque chose qu'on peut complètement débattre, se retrouver forcément en tension avec la littérature consacrée. Et ça se sentait aussi au niveau théorique. Mais en fait, moi je le précise, j'ai vraiment abordé cet objet-là en comparaison, parce que je fais de la littérature comparée, avec la littérature institutionnelle, la littérature consacrée. Et notamment, dans mon mémoire, j'ai vraiment eu un corpus qui était des fanfictions à partir d'œuvres du canon littéraire. Alors, par exemple, Odyssée, par exemple, Roméo et Juliette, Les Misérables, Love de Jane Austen, ce genre de choses. Pour voir justement, voilà, quels sont les contrastes, en fait, et qu'est-ce qui se différencie dans la réappropriation des œuvres par rapport au statut de ces œuvres-là qui sont extrêmement reconnues. Mmh. Ce qui fait que je pense que j'ai une approche qui est très, très, en fait, très centrée sur ces questions-là, qui a toujours dans le coin de l'œil la littérature consacrée. Et donc, c'est quelque chose qui est sur vraiment une très petite partie en fait, de ce qui est produit en fanfiction, parce que ça, c'est vraiment pas du tout la majorité des textes, et avec des outils vraiment plus propres aux études littéraires. Par contraste avec ce qui se fait aux méthodologies des études fan, en fait. Mmh. Qui d'ailleurs sont moins importés en France, hein, en tout cas.
C'est ça, ouais. C'est exactement le réflexe que j'avais, parce que tu disais années 60, donc pas tout à fait vers Stanley Fish, pas tout à fait dans le Reader Response Theory américain. Là.
Voilà, vraiment plus sur l'école française, en fait, qui correspond à ma formation, mais qui, pour moi, produit aussi un petit peu les frictions les plus fortes, parce que c'était une période où il y avait quelque chose comme... Enfin, moi, en tout cas, après, dans ma thèse, j'essaye de l'aborder comme une forme de programmation un peu idéalisée d'un lecteur actif, mm-hmm. qui est toujours pensé théoriquement, et qui, par contre, quand il s'agit de réaliser, finalement, cette espèce d'espoir théorique, on se retrouve avec des fictions dont on peut considérer qu'elles sont assez frustrantes pour leur lecteur, parfois. En tout cas, chez les auteurs consacrés, c'est une pensée qu'on peut identifier, Par exemple, Italo Calvino, quand il écrit « Si par une nuit d'hiver, un voyageur qui nous montre un lecteur », évidemment, personnage de lecteur qui se retrouve à vivre tout un tas de choses, et on est quand même dans une position où nous, on va lire ses aventures. Et on va à la fois penser que le texte s'adresse à nous, mais non, parce qu'il y a toujours des points de rupture. Donc voilà, ça crée...
C'est un gros défi, en fait. C'est là-dessus que j'ai beaucoup d'admiration pour ton projet, parce qu'on dirait que, intentionnellement ou non, t'as pas utilisé les penseurs qui t'auraient rendu la vie plus facile.
Bah après, j'ai aussi un peu utilisé Matthews et je suis un peu allée chercher, mais un peu plus tard, Stanley Fish pour justement un peu alimenter ces contrastes-là. Mais je pense que c'est vrai que la question, c'était un peu celle du lecteur globalement, du coup, dans la littérature telle qu'elle est consacrée et dans la fanfiction.
Ouais.
Et est-ce qu'on pouvait essayer de le penser ensemble? Et ça, évidemment, c'est très compliqué. Mais voilà, c'était aussi ce qui m'intéressait.
Mais c'est quand même qu'est-ce qui m'amène à poser la question, d'où ça t'est venu? Comment est-ce que tu as réfléchi à ce projet-là?
Oui, alors ça c'est difficile parce qu'en fait c'est vrai qu'on me pose parfois la question et je ne me souviens plus à partir de quand j'ai commencé à lire de la fanfiction.
Okay.
Je pense que du coup c'est assez ancien, mais surtout la vraie question c'est est-ce que j'ai commencé à en lire en français ou en anglais, parce que là ça m'aiderait à dater, parce qu'à partir du moment où j'ai été capable de lire en anglais, c'est-à-dire pas si tôt parce que je viens pas d'une culture bilingue, donc c'est vers mes 15 ans, pas avant je pense, 14-15, mais il est possible que j'ai découvert ça relativement jeune dans la lignée Harry Potter, mais d'un peu loin j'ai dû en lire un peu, et je pense que finalement c'est les études littéraires qui, en cours de théorie, avec ces concepts-là, en cherchant des angles, me disant « mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces théories-là, ce qui marcherait le mieux, ce serait ces fanfictions ». Et j'y suis retournée, du coup, à cause de ça. Et je pense que c'est... Donc, je suis vraiment plus du côté AK que fan, si je veux vraiment me situer.
Okay.
Mais ce qui s'est passé, c'est que plus je me disais « mais c'est fou parce que c'est très intéressant la manière dont ça entre en résonance avec ces concepts-là », plus je me suis replongée dedans, plus j'en ai lu. Et maintenant, j'en lis, je pense, énormément, et je me suis un peu impliquée dans des fandoms, et je me suis mis à écrire aussi. Notamment parce qu'on m'a demandé, est-ce que vous en écrivez dans le cadre de mes recherches? À l'époque, je me disais, pas vraiment, j'avais peut-être une vieille fanfiction Harry Potter pas finie dans un coin. Et finalement, en fait, je me suis appropriée par ce biais-là, toujours en conservant une influence énorme du système universitaire, même dans la manière dont je vais écrire et percevoir l'écriture. Mais je le sais. Donc c'est ça qui...
Exactement, c'est pas des trucs qui t'échappent, c'est pas pour comparer les situations. À mon avis, ici au Québec, on se retrouve à pas avoir une grande masse de production. J'entends souvent ce que tu dis, je pense que j'ai un fanfiction de Harry Potter qui part dans un coin. Ça, c'est un trop bien connu, mais moi, je mets beaucoup d'efforts, je mets énormément de recherches pour essayer d'en retrouver ici, pour essayer de voir si la proximité aux États-Unis fait en sorte qu'il y a une contamination dans ce genre de pratique-là. Mais toi, provenant de la France, en fait, j'ai aucun bilan de comment ça se passe en France. J'ai aucun son de cloche, j'ai aucune idée. Donc, c'est quoi actuellement ou historiquement, est-ce que tu as une idée de comment c'est arrivé? C'est quoi les sites qu'on utilise pour archiver? Est-ce que c'est les mêmes que celles qu'on a aux États-Unis ou est-ce qu'il y a des interfaces privées par rapport à des fandoms à proprement parler français? Est-ce qu'il y a des grands mouvements par rapport à des trucs, des productions françaises qui ne sont pas exportées, par exemple? Est-ce qu'on se retrouve à voir, là c'est un exemple très très large, mais est-ce qu'il y a une production sur les nuls? Est-ce qu'il y a une production sur Ladybug et Chat Noir, par exemple? Est-ce qu'il y a de la production sur la France?
Alors ça, j'avais à avoir un peu de mal à répondre parce que j'avoue que je n'ai pas vraiment approché les fandoms par des cases plus nationales ou de frontières. Sachant qu'en plus, comme j'étais en comparé, c'était tout à fait admis et avec une démarche théorique de mélanger des textes en français, des textes en anglais.
Okay.
Et du coup, c'est vrai que cette question-là, et en plus du rapport de force entre langues au sein des archives globales, qui est quand même une question énorme, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penchée, mais j'aimerais bien le faire un jour, plus tard dans mes recherches, parce que ça me paraît effectivement central. Et d'ailleurs, moi-même, j'écris un peu en français, mais j'écris surtout en anglais, en fait. Alors que, comme je disais, je ne suis pas bilingue, donc ça me demande un effort et potentiellement, il y a des choses qui vont trahir, d'ailleurs, ce fait-là.
En français, sur des fandoms anglais?
Alors, en français, sur des fandoms français, plutôt. Et en anglais, sur des fandoms anglais. Mais parce que, effectivement, moi, les archives que je connais et celles qui, à ma connaissance, sont quand même assez utilisées en France, sont des archives internationales et du coup majoritairement anglophones, parce qu'il y a vraiment cet aspect qui sont dominés par des fandoms anglophones. Donc fanfiction.net, historiquement, Archive of Our Own, massivement. Bon, Wattpad, que je connais moins bien. Donc les archives généralistes, en fait. Après, je sais qu'il y a eu quand même une archive française d'Harry Potter assez importante dans le passé. Mais sur les fandoms spécifiquement français, le seul point que là je signalerais, parce que ça, j'ai vraiment observé ça d'un peu plus près, c'était l'apparition en RPF, donc Real Person, du fandom politique française pendant la campagne présidentielle voilà, d'il y a 2 ans maintenant. Qui est un fandom spécifiquement français, effectivement, malgré certains snash avec Justin Trudeau, Emmanuel Macron, si on veut.
Pas d'allure, ça c'est... Mais c'est ça, c'est... la pratique peut être récupérée partout et à toutes sortes de sources. Donc, est-ce que t'en lis beaucoup, de la fic de Macron?
Alors, j'en ai lu un peu parce que j'étais quand même très intriguée. C'était un objet de discussion vraiment à ce moment-là. C'est même arrivé au grand public par la presse qui s'est fini par se rendre compte que voilà, ça existait. Aux grandes dames de ce fandom-là qui était quand même petit, essentiellement situé sur Tumblr et qui s'est vu découvert. Et ça a été un peu un traumatisme, je crois, aussi. D'ailleurs, j'arrange pas du tout leur affaire, là. Mais
ouais, mais c'est un lieu commun que les médias finissent toujours par trouver quelque chose qu'ils considèrent comme... anormal et bizarroïde et intéressant, puis ils mettent le doigt dedans. Mais j'ose espérer que ça n'a pas tant fait de mal au fandom, puis que ça doit, j'espère que ça continue.
Ça continue, mais je pense que c'était très lié justement à cet événement-là qui était le brassage de la campagne politique, qui est le moment où la machine fictionnelle aussi qu'il peut y avoir autour de la politique marche le plus fort et qui ensuite s'atténue une fois. Enfin, sachant que la place qu'on donne au président en France est telle que ça marche essentiellement autour de cette élection-là, plus que d'autres élections. Donc là-dessus, je trouvais ça très caractéristique. Ouais.
Et est-ce que tu as d'autres observations?
Sur ce sujet-là, qui est un sujet très glissant. Moi, j'ai du mal à commenter parce que je trouve que éthiquement, c'est difficile. Enfin, je ne me sens pas d'expertise sur ce sujet-là. Et en plus...
Oui, non, mais c'est... En fait, je pose la question en termes de fans. Comme je te dis, j'ai pas tant de possibilités, de contexte pour être capable de discuter avec quelqu'un qui connaît ça aussi bien que toi. Donc, je me retrouve un peu à vouloir te poser toutes les questions, mais c'est essentiellement ce que je vais faire.
Il y a une chose quand même qui m'avait frappée, et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à m'intéresser à la question du rôle des archivistes, finalement, dans ces archives globales, et des règles et des limites de la fanfiction. C'est-à-dire, c'est quand même présenté comme un genre très démocratique, où tout le monde peut écrire, où dans certaines archives, les conditions d'utilisation sont élargies au maximum. Notamment, ça, c'est la politique très mise en avant par Archive of Our Own, qui a été créée dans ce but, c'est-à-dire pouvoir écrire... si on veut, des textes pornographiques très explicites, des textes impliquant des personnes réelles, ce genre de choses qui étaient parfois interdites ou censurées sur d'autres archives, sur d'autres sites d'archives généralistes, notamment fanfiction.net. Mais à ce moment-là de la campagne, on a vu aussi apparaître quelques fanfictions qui étaient encore plus clairement, si on veut, que les autres textes dont le statut est un petit peu débattable, des textes de semi-propagande, c'est-à-dire des textes qui, par exemple, extrêmement antisémites, qui impliquaient des personnages politiques dans une aventure, voilà, où le sous-texte idéologique était vraiment un agenda antisémite, et c'était assez clair. Et qui, finalement, rentrait pour autant, rentrait quand même dans les conditions d'utilisation. Ouais. Donc voilà. Et là, c'est là que la question se pose. Oui. Parce que c'est vrai que l'image de la fanfiction qu'on peut avoir, qui est dans beaucoup, qui est véhiculée par beaucoup d'études de fan studies, et que moi, par ailleurs, je soutiens tout à fait, c'est quand même l'idée d'un genre qui donne la parole aux minorités, qui va représenter, éventuellement, avoir un agenda progressiste, ou en tout cas, par ses représentations, aider voilà, une forme de diversification de la fiction, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'était intéressant parce que c'était le côté obscur de la force, si on veut.
Ben oui, absolument. C'est vrai que je ne suis pas tant tombé sur des études de cas où on voyait vraiment l'inverse, là, cette espèce de, d'extrémisme, évidemment, mais de l'extrémisme de l'autre côté. Là,
Parce que je pense que l'inverse existe et que même dans des fandoms plus, disons, à base plus fictionnelle, je pense que ça existe aussi. Forcément, les représentations peuvent être problématiques autant dans une fanfiction que dans la fiction publiée, on va dire. Mais ça se manifeste, à mon avis, différemment, du coup, parce que les règles du milieu sont quand même différentes, etc.
Ben, en fait, il y a aussi un des grands aspects de la fanfiction qui est intéressant du point de vue des études littéraires, c'est cette idée-là que les règles sont forcément brisées, très fluctueuses.
C'est ça, très fluide. Mais potentiellement plus régi par des usages communautaires, en fait.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est très intéressant par rapport au statut, si on compare ça au statut de la littérature consacrée, où les règles sont aussi déterminées par tout un système éditorial, par, dans une certaine mesure, la tradition universitaire a contribué à ça aussi. Mmh. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est une forme alors, d'autorité collective, on pourrait dire. C'est un peu fluctuant, c'est pas si facile que ça à déterminer, mais voilà, il y a des usages, il y a une sorte d'étiquette communautaire.
Et c'est drôle parce que récemment, ben, durant les vacances d'été, je suis retombé dans Enterprising Women de Camille Bacon-Smith. Ça m'a impressionné à quel point est-ce que tout ce dont on parle actuellement, ces idées-là de règles, de contestation du canon, et ainsi de suite, c'est des points d'honneur dans son livre. Elle est extrêmement à cheval sur ces principes-là. En disant, il y a des grandes déclarations qui, pour moi, sont absolument fantastiques, comme la fanfiction est un lieu féminin dans lequel on accepte la présence des hommes tant et aussi longtemps qu'ils comprennent que c'est nous qui font les règles. Les canons, les structures, les autorités, comme tu les appelles, ne sont pas là pour correctement illustrer nos situations. Donc, l'avenue de cette pratique-là, la fanfiction, se doit d'avoir une position contestataire. Et que s'il y a un ADN dans cette pratique-là, ben là, la contestation et la subversion en font partie en haute page. Ils veulent, et elle, en prenant la voix, parce qu'elle est ethnologue de formation, elle prend la voix de ses sujets, mais elle récupère cette voix-là en disant que ça doit être quelque chose qui donne, bon, à la fois la parole aux femmes, la parole à la subjectivité féminine, mais aussi à une destruction massive de ce canon autoritaire-là. Cela fait en sorte que je suis extrêmement intéressé et curieux de ton approche. Tu sais, le fait d'avoir pris, tu ne peux pas avoir plus sacré que Barthes. Tu sais, puis de vraiment essayer. C'est effectivement vrai qu'il doit avoir énormément de frictions, mais ces frictions vont juste faire ressortir l'étrange de la fanfiction en disant ben, il n'y a pas grand-chose en théorie classique qui est capable de tenir ça. Est-ce que le fait que les études littéraires classiques n'aient pas l'outillage théorique pour parler de la fanfiction est, à ton avis, une faiblesse de la fanfiction ou une faiblesse des études littéraires?
Alors, c'est définitivement une faiblesse des études littéraires, mais ça, c'est un peu lié à une question des études littéraires aussi, à savoir qu'est-ce que le littéraire. C'est un petit peu tarte à la crème, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est dans une période, mais ça fait très longtemps, hein, de questionnement de ces frontières-là, tout en intégrant ces objets, parce que moi, finalement, personne m'a interdit de parler de ça, au contraire, en intégrant les objets de la culture populaire, en intégrant aussi des objets de la littérature numérique, qui, en tant que telle, ne relèvent pas de la culture populaire, en tout cas par ce qu'on désigne habituellement par littérature numérique ou électronique. Je sais qu'ici, on dit plutôt électronique, numérique, c'est plutôt en France.
C'est encore des mots,
oui, voilà,
qui sont utilisés.
Mais il y a eu du débat sur ce que recouvrait exactement ces termes-là, ouais. Donc je signale la différence parce que, oui,
okay.
Je pense que c'est assez admis que la tradition, en tout cas littérature numérique, ne rentrait pas dans la culture populaire. Donc. Mais questionne aussi le champ littéraire. Alors que ces outils-là soient adéquats ou ne soient pas adéquats, justement, je pense que voilà, c'est vraiment un problème des études littéraires, enfin, une question. Et comment est-ce que peut ou non intégrer de nouveaux objets? C'est toujours comme ça que la discipline évolue. Donc, je pense que voilà.
Tu fais partie de la première garde d'un re-questionnement.
Bah, la première garde, je ne sais pas, mais disons que c'est vrai que c'est des objets qui souvent, alors en France, ont été surtout étudiés plutôt du côté de la sociologie. Mmh. On sait qu'on leur refile tous les objets dont on ne veut pas en général, hein, donc c'est très significatif. Et comme je disais, comme les études fans sont assez peu ancrées, mais c'est assez significatif qu'il y ait des études fans qui séparent forcément cet objet-là de la littérature.
Mmh.
Finalement, pourquoi? Sachant que la littérature populaire commence quand même à être intégrée, mais la fanfiction est un petit peu à la traîne.
OK.
Donc,
Est-ce que tu as des... En fait, parce que j'imagine que les gens qui écoutent l'émission sont un peu curieux, est-ce que tu as des personnes, des personnalités, des chercheurs forts? Y a-t-il des références en France que tu nous encouragerais à aller voir?
Oui, tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui travaillent dessus. Alors, notamment, je vais citer Mélanie Bourdard, Sébastien François. Il y a aussi Claire Cornillon. Voilà, essentiellement. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres gens que j'oublie, mais c'est les principaux que j'ai lus, moi, qui me viennent là tout de suite. Et Anne Besson, évidemment, qui, en littérature comparée, pour le coup, a été vraiment pionnière dans ce champ-là, dans le champ vraiment... entièrement littéraire. Après, c'est les frontières disciplinaires françaises font que le reste de ces chercheurs va très vite être dans un autre champ.
Okay.
Et ça facilite d'ailleurs pas forcément les échanges, enfin, au sens, mais c'est de ma faute, mais moi j'ai mis assez longtemps à pouvoir cartographier justement qui faisait quoi en France là-dessus. Et même encore maintenant, j'ai aussi vraiment commencé avec les Américains en fait. Mais c'est de longue haleine et moi, je n'ai pas fini. Hein. Je veux pas là-dessus. Encore une fois, je pense que je ne suis pas une vraie spécialiste au sens où je ne fais pas que ça. C'est important que je me situe parce que je ne vais pas non plus. Très bien. Moi, je maintiens que j'ai quand même un angle assez précis sur la question qui, du coup, laisse de côté énormément de choses, en fait. Et que c'est bien de le préciser. Parce que justement, c'est pris dans cette relation avec la littérature consacrée.
Oui.
Ce qui est restreint. Parce que, en plus, là, ça veut dire que je ne mentionne pas tout ce qui est fanfiction de tous les autres formes médiatiques,
oui.
etc.
Enfin, oui, c'est très vrai, mais c'est ça. C'est ça quand on a un champ qui est si vaste. Même les experts en fanfiction ne sont pas fondamentalement des experts en fanvidding ou en cosplay ou ainsi de suite. C'est tellement, malgré que c'est tous un peu des facettes de la même genre d'expression, sauf qu'ils ne se manifestent pas de la même manière. Ceci étant dit, ton projet me pique ma curiosité immensément. Est-ce que tu avais des hypothèses en rentrant? Et qu'est-ce qui en a découlé? Qu'est-ce que tu as appris de la fanfiction sur l'Odyssée? Qu'est-ce qui... Il doit y avoir des trucs qui s'en ont sortis?
Alors, oui.
Est-ce que tu as des fanfictions préférées par rapport à ça? Y a-t-il quelqu'un qui a fait un truc extraordinaire avec Thésée?
Oui, je pense que je ferai une ou deux recommandations si les gens sont curieux, parce que c'est toujours agréable à faire. Et puis, sur ce corpus-là, il n'est pas forcément, c'est pas forcément le plus connu ou celui vers lequel on va le plus naturellement.
Ben
donc, ouais. Alors, il y a une chose qui m'intéresse, mais qui est une conclusion qui, je pense, tient vraiment à la nature de mes outils, c'est que ces textes-là, et là, je pense que ça peut s'appliquer à la fanfiction en général. Ça se rapproche finalement d'assez près de d'autres formes de textualité, mais qui sont très anciennes. Les deux comparaisons que j'avais été amenée à faire, il y a maintenant un moment, c'était d'une part les exercices de rhétorique qui se pratiquaient dans l'Antiquité, quand on avait un rapport au texte qui n'était pas un rapport si autoritaire parce que on avait un maître de rhétorique qui nous disait « voici tel discours ou tel mythe hein, », d'ailleurs ce n'est pas forcément un texte, « réécrivez-moi une version avec telle contrainte ou tel autre personnage ou avec telle intention ». Et donc on réécrivait énormément. Et c'est comme ça qu'on écrivait, essentiellement par imitation. Donc ce type-là de reprise et ce rapport au texte réécrit se rapproche dans une certaine mesure des fanfictions. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais voilà.
C'est très près, oui.
La notion de culture rhétorique par rapport à ce type de réappropriation des textes, elle n'est pas inintéressante. La deuxième chose, c'était un mode de circulation des textes qui se rapprocherait des modes de circulation médiévaux. C'est-à-dire, donc avant évidemment l'imprimerie, quand on a des versions concurrentes d'un même texte, parce qu'on a plusieurs manuscrits, parce qu'on a des manuscrits qui vont être copiés différemment, des manuscrits en plusieurs langues, et aussi l'influence des versions orales qui vont voyager et qui modifient finalement, par exemple, comment s'est constituée la légende arthurienne, mais on a voilà, des va-et-vient déjà entre la France et l'Angleterre sur plusieurs versions, des choses concurrentes, des choses qui se rajoutent, etc. Et ça, finalement, cette coexistence des versions avec des petites modifications, avec ce que les médiévistes appellent parfois la variance, ça se rapproche aussi, à mon sens, de ce qui peut se passer dans l'écriture massive des fanfictions. C'est-à-dire que par le nombre, on va modifier, on va déformer, et certaines choses deviennent traditionnelles. Hein, ce qu'on appelle le fanon, modifications fan, qui sont adoptées, reprises collectivement, qui finissent par devenir une sorte de tradition bis d'écriture. Donc voilà,
wow.
Ça c'est pour le petit rapport à l'histoire littéraire, mais avec des gros guillemets, parce que finalement ces périodes-là sont des périodes en général on dit où on ne parle pas de littérature, ou font un autre mot. Donc avant qu'on institutionnalise, qu'on définisse vraiment une littérature, Et je me demande, enfin, c'est pas très très original comme hypothèse, mais il y a un petit peu cette idée que finalement, toutes ces choses en ligne, toutes ces formes un peu alternatives de publication, bon, internet, numérique, qui ressuscitent aussi des modes de textualité qui restent marginaux, mais qui coexistent avec le système officiel, mais qui, du coup, en existant dans les marges, exercent quand même une forme de... Enfin, ou une présence, sont influencés et influencent peut-être aussi réciproquement ce qui se fait dans le milieu officiel.
Je trouve ça incroyable parce que tout en humilité, tu dis quand même des choses extrêmement intéressantes. Et moi, personnellement, je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs de ces deux hypothèses-là que tu viens de prononcer.
Bah, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a un intérêt aussi à avoir parfois des outils qui ont l'air, voilà, on a dit, hein, les outils littéraires ont parfois l'air inadaptés, mais ça force aussi à adopter une perspective un petit peu en biais, qui mm-hmm. donne peut-être parfois des choses, voilà, qui peuvent...
C'est fantastique. Ouais. Et là, si je me rappelle bien, tu disais que tu avais l'Odyssée, le corpus shakespearien...
Alors, j'ai beaucoup de choses parce qu'en fait, comme c'est une démarche théorique, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, oui, j'ai eu plusieurs, enfin, corpus shakespearien, Odyssée, Iliade, Jane Austen, plusieurs textes, Victor Hugo, énormément.
Ça, c'est incroyable.
Oui.
En français ou en anglais?
Les deux.
Oui, parce qu'il y a comme la pièce de Broadway qui a dû...
Les films. En fait, il y a eu énormément d'adaptations. Les Misérables, il y a un nombre de films incroyables. Et ça influence évidemment le nombre de fanfictions. Parce que finalement, la question que je me posais aussi en arrivant, c'est y a-t-il des fanfictions de Proust ?
Ah ouais.
Mais en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je trouve que... Et c'est une question qui m'intéresse de plus en plus en ce moment. C'est la question de... Finalement, du rapport entre fanfiction et avenir des textes. Alors, j'ai fait une lecture récente que je vais recommander parce que je trouve que c'est un livre très intéressant à plusieurs aspects, qui s'appelle Rogue Archives, donc alors, les archives rouées, si j'essaie de traduire, de Abigail de Kosnick, qui est une chercheuse qui travaille à Berkeley, et qui s'intéresse alors à la question des archives amateurs, des archives fans, mais pas seulement, mais son corpus, c'est essentiellement les archives fans. Et un point qu'elle soulève, c'est cette capacité, en fait, des archives gérées par les fans à organiser le futur de ces archives, c'est-à-dire par le biais de challenges, des prompts, du fait de demander à ce qu'on écrive certains textes, de chercher activement à diversifier une archive, c'est-à-dire cette semaine, défi, écrivez seulement des textes avec des personnages de couleur, écrivez seulement des textes avec un gender swap féminin, des choses comme ça. Et que finalement, on récupère une œuvre qui est à la base fermée et on décide comment elle va évoluer et comment on va la diversifier et qu'on va multiplier tel type de texte. Et donc ça, c'est une sorte de politique de l'archive qui m'intéresse aussi. Et bon, quand je dis voilà, accidentellement, j'ai peut-être provoqué l'écriture d'une fanfiction de Proust, il y a ça. Il y a c'est aussi. Noble. C'est noble. Après, c'est aussi quelle est l'influence de la recherche ou en tout cas du regard. Quand on s'intéresse à un objet comme ça, est-ce qu'on influence le champ? Là, ça paraît un petit peu évident, mais...
Oui, mais je la trouve quand même intéressante, cette question-là, puisque dès que tu as dit le mot « avenir », je me suis mis à réfléchir sur le fait que, moi, c'est une de mes craintes, c'est l'œuvre qui n'a pas de fanfiction. Oui. C'est l'œuvre qui ne génère pas de dérive créatrice ou artistique. Cette œuvre-là, c'est un des exemples que je trouve qui est vraiment intéressant. Jusqu'à très récemment, le plus important box-office de l'histoire du cinéma, c'était Avatar. Mais Avatar ne produit que très peu de fanfiction et a une résonance fanique extrêmement limitée. Et je trouve que c'est un exemple très, très spécifique.
C'est intéressant, oui.
Parce qu'autant que c'est un film, son box-office en est témoin, c'est un film extrêmement populaire, on dirait qu'il n'y a rien... Il comporte que très peu d'accroches pour être capable d'investir en tant que... Bon, tu l'as vu?
Oui, je l'ai pas vu, mais je me suis fait la même réflexion récemment sur la série Westworld, en me disant, voilà, c'est très mis en avant, grosse série HBO, il y a très, très peu de fanfiction. Et ça m'a pas étonnée parce que je me disais, mais il n'y a pas ces accroches dont on a besoin dans certaines œuvres pour se l'approprier, notamment la place des personnages. La série est tellement cérébrale que la place des personnages peut parfois sembler très secondaire.
Mais c'est là où je trouve que c'est un très bel exemple, Westworld. C'est que la majorité des personnages sont des automates.
Oui.
Donc, ils ont tous une histoire à eux qu'on pourrait...
Ça pourrait être très réappropriable En plus, c'est une série qui a énormément de personnages féminins. Parfois, c'est un critère. Enfin, je ne veux pas faire de généralité parce que ce n'est pas toujours vrai. Mais... Et pour autant, voilà, il n'y a pas du tout ce. Enfin, je pense que c'est une série qui ne facilite pas forcément l'investissement émotionnel
Oui.
et que potentiellement, ça a pu freiner ça. Mais bon, c'est vraiment. Là, c'est très personnel comme hypothèse. Ce n'est pas du tout renseigné. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'interroge.
Mais c'est simple, c'est cette idée que, inévitablement, ça va freiner la pérennité de cette œuvre-là.
Oui, enfin, je dis oui, mais
Ben, à mon avis, en fait,
si
ouais,
sur l'avenir. Non, mais
j'utilise des termes très
je
péremptoires.
suis d'accord et je pense que c'est pas que ça pourrait être un nouveau critère de valeur. Je sais qu'on n'a pas forcément besoin de nouveaux critères de valeur, mais la capacité d'une œuvre à être réappropriée, moi je sais que quand j'aime quelque chose, j'ai quand même envie de, en général, au bout d'un moment, d'en faire quelque chose. Que ce soit un commentaire, parce que voilà, ça c'est mes réflexes un peu plus universitaires, ou une transformation maintenant aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est une œuvre qu'on ne peut pas se réapproprier?
Ou que le fandom en général boude,
Ou que le
qu'on
fandom
voit
boude.
qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Est-ce que ça, sur le long, est-ce qu'on va se retrouver à perdre cette œuvre-là plus rapidement, comme Pride and Prejudice and Zombies,
Alors, je ne sais plus exactement la
Austin Brown?
date, parce que je crois que, enfin, en fait, je crois que Jane Austen a toujours suscité énormément de fanfiction. Pour le coup, les questions nationales, j'ai une étude de cas que j'ai jamais faite, que je devais faire sur Jane Austen et Victor Hugo, parce que c'est quand même des auteurs qui sont centraux dans les identités de construction des identités nationales du Royaume-Uni, de la France, et qui ont connu énormément d'adaptations et qui, de ce même coup, se retrouvent intégrés dans des gros fandoms, en tout cas des fandoms moyens mais assez gros pour la littérature, qui n'est pas non plus le premier objet en fait réinvesti par la fanfiction. Et en même temps, la manière dont la fanfiction se réapproprie est très différente, je pense, dans une certaine mesure, parce que le canevas peut être parfois complètement éliminé. Hein. Moi, j'ai fait des exemples, Les Misérables dans l'espace, Les
Oui.
Misérables tiennent un café, voilà, ça c'est les classiques. Donc là, on sort complètement de ces critères-là, qui sont plutôt les critères de réécriture, mais dans des réécritures publiées par des auteurs,
Moi.
etc., qui reprennent, et même la question du style, en fait, qui est un peu centrale pour ces auteurs-là. On parle du style de Jane Austen, on parle du style de Victor Hugo. Soudainement, se retrouver à lire Victor Hugo, Les Misérables dans l'espace, en anglais, les personnages ont tous changé de genre, il reste en fait que les prénoms. Voilà, ça c'est des choses que j'ai essayé d'approcher aussi en me disant qu'est-ce qui reste, comment on reconnaît une œuvre au bout d'un moment réécrite, quel est l'élément minimal, ce genre de choses. Enfin,
Ouais, qu'est-ce que Camille Bacon-Smith appelle le micro-reading, là? C'est quoi le dernier élément qui fait qu'il y a une synthèse de l'œuvre?
ouais,
Et
voilà.
ces éléments-là sont, de règle générale, plus souvent qu'autrement, seulement reconnaissables par les grands érudits des œuvres. C'est pas en ayant une connaissance superficielle des Misérables que tu es capable de retrouver l'élément propre aux Misérables qui est récupéré en fanfiction, au-delà des prénoms.
Mais je pense quand même que les personnages sont un peu l'élément qui font tenir, parce que sinon, toute l'intrigue, je veux dire, le fait même que les univers alternatifs soient quelque chose qui soit très investi, signale que finalement, c'est pas l'intrigue, c'est pas l'époque, c'est pas forcément la structure narrative, parce qu'on peut récupérer des codes d'autres genres.
Ah oui,
Mais
bon.
ça reste ces personnages-là. Si on n'a plus les personnages, on peut plus tellement savoir que c'est
Oui,
les misères.
non, mais pour prendre vraiment un exemple qui va être plus clair par rapport à ça, c'est comme tu peux pas nommer un personnage Iago sans qu'il y ait de traîtrise.
Oui.
C'est plutôt ça, là. C'est d'avoir. Jean Valjean va toujours être
Oui. Oui,
anti-autorité.
les
C'est ça, c'est
caractéristiques
vraiment.
minimales des
Si tu
personnages.
prends
Tu peux les
un.
rebaptiser, mais il faut que la personnalité demeure. Oui, c'est un
Oui.
rapport au personnage qui est d'ailleurs très très différent de ce qui a été traditionnellement enseigné dans les études littéraires. Enfin, moi, j'ai des étudiants, on leur dit toujours, attention, ce sont des personnages de papier, vous ne pouvez pas les traiter comme des personnes réelles, etc. Donc, moi,
Et là,
j'ai
t'as la fanfiction
une
au complet qui
petite.
fait
Voilà, moi
Oh,
j'ai une
non.
petite dichotomie hein, par rapport à ça.
Oh.
Mais je fais aussi des ateliers de fanfiction avec mes étudiants, donc
Oh, ouais.
j'essaie de compenser. Oui. Et d'ailleurs, dans mes recommandations, je recommanderais une fanfiction d'un de mes étudiants qui l'année dernière. Donc voilà, en général, ce que je demande, c'est. Alors, je les encadre, c'est des consignes assez strictes, c'est ça qui rend l'expérience pas forcément complètement authentique, parce que ce ne sont pas des fans spontanés. Hein. Je leur
Ouais.
demande plutôt d'avoir une pratique oppositionnelle, c'est-à-dire de prendre une œuvre qu'ils voudraient corriger. Ce qui n'est pas toujours, d'ailleurs pas forcément la perspective majoritaire des fans, ou en tout cas pas consciemment. Parce qu'il y a toujours cette relation ambiguë de on aime tellement cette œuvre, on a envie d'en faire plus, et en même temps, il manque telle catégorie de personnages dedans qui n'est pas assez représentée. En même temps, il ne se passe pas ça alors qu'on aimerait qu'il se passe ça. Donc voilà.
Mais il y a Jenkins qui fait beaucoup de millage sur cette idée-là récemment. Mm. Il est continuellement en train de parler de la fanfiction, répare les violences qui sont faites à la fiction et qui sont faites dans la société aussi.
Ouais, enfin moi je, ouais, c'est quelque chose auquel il faut encore que je réfléchisse parce que c'est compliqué à déterminer. Mais toujours est-il que voilà, mes étudiants, en général, j'essaie de les encourager à prendre des choses un petit peu. On se retrouve avec un peu de canonique parfois parce que il faut que tout le monde connaisse, ce qui est toujours la question en fait, ce qui est un peu un problème. Mais bon, j'ai eu du Harry Potter, tout le monde connaissait, c'est parfait. J'ai notamment un qui m'a écrit un rap sur la Bible à partir de reprenant le personnage de Jésus en faisant. Personnage de gangsta rappeur qui est très... Donc j'ai un excellent rap de fanfiction de la Bible, parce que oui, il y a des fanfictions de la Bible aussi.
Écrite ou enregistrée?
Alors les deux, moi en l'occurrence, ce que
quand
je veux...
Quand je parle de rap de la Bible, est-ce qu'il l'a fait?
Alors, il l'a performé ensuite, il y a aussi une vidéo.
Ah, ça je suis content de l'entendre.
Et donc voilà, j'étais très heureuse, en plus, donc multimédia, parfait. Ouais. mais ouais, voilà, je signale qu'il existe un fandom de la Bible qui peut être assez amusant. Dans le genre désacralisation des textes, ça se pose là.
tu poses une excellente question, ou du moins, ça permet une excellente question. Est-ce que l'Église est un fandom de la Bible?
Alors, j'ai travaillé, j'ai travaillé avec des gens qui sont spécialistes des apocryphes bibliques, mm-hmm. c'est-à-dire des textes qui sont hors du canon biblique, mais qui sont quand même finalement autour, alors pas reconnus par l'Église comme inspirés ou quoi que ce soit, mais parfois conseillés pour l'édification, ça dépend, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Mais qui se retrouvaient, on se retrouvait avec des questions communes parfois, c'est-à-dire sont des textes qui existent en marge d'un canon. Qui reprennent les personnages de ce canon, parce qu'on a par exemple des évangiles, donc vie de Jésus, mais qui ne sont pas considérés comme canoniques, donc des évangiles supplémentaires, si on a l'enfance de Jésus, par exemple, l'évangile de Thomas, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais... Donc on se disait, est-ce que ce sont des fanfictions, en fait, ou est-ce que simplement ce sont des textes qui sont nés dans d'autres communautés considérées comme, à l'époque, comme hérétiques, et qui maintenant sont un peu réintégrées ou pas. Donc il y a, voilà... Il y a du brassage autour de ce genre d'enjeu.
OK, donc là, il y a le rap de Jésus. En fait, ça m'échappait totalement que tu donnais des cours de création, j'imagine.
Alors, c'est pas officiellement des cours de création, mais je donne des cours de théorie littéraire où on essaye de réfléchir, c'est des premières années en général, en gros, qu'est-ce qu'un lecteur, qu'est-ce qu'un auteur. Et je leur fais faire ça pour leur essayer d'avoir un débat avec eux sur... comment ils voient leurs gestes d'écriture quand ils réécrivent un texte, quand ils éventuellement essayent de corriger quelque chose ou pas. Est-ce qu'ils le font en tant que lecteur de ce texte? Est-ce qu'ils considèrent que non, ils sont des auteurs? Voilà. Est-ce que c'est de la littérature, ce qu'ils ont fait? Et voilà, ils ne sont pas toujours d'accord. Ça nous permet aussi de discuter de ce genre de choses. Mmh. Et ça peut être intéressant pour les aider ou les guider ou, je ne sais pas, leur permettre à eux de se forger une opinion là-dessus, en fait. Ce qui est un peu essentiel en théorie parce que on peut choisir son camp parfois aussi.
Et est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur leur façon de réfléchir au corpus littéraire que d'avoir été, en première année, introduit à cette idée de rien n'est sacré, rien n'est figé?
Je sais pas, j'espère. Enfin, disons qu'en tout cas, les retours que j'ai pu avoir vont parfois dans ce sens-là. Mmh. Parfois, ils peuvent aussi être assez résistants parce que finalement, ils viennent en littérature pour faire de la littérature canonique, pour certains vraiment. Et on, du coup, un rapport assez traditionnel, parfois. Mais bon, on ne peut pas... Déjà, c'est leur droit, d'une part.
Ah, absolument.
Et puis, d'autre part, on peut toujours évoluer. Enfin, moi, je pense qu'il y a 10 ans, je ne sais pas exactement comment je me situais, mais c'est des choses qui... La fanfiction, ça a changé mon rapport au texte. À force d'en fréquenter, c'est certain, à tous les textes, aux textes canoniques absolument. Et maintenant, quand je lis... si j'ai Les Misérables, bien sûr que je vais chercher... la fanfiction, en fait. Avec mes amis, maintenant, dans toutes les conversations, on a un petit gimmick, imagine the fanfiction, à chaque fois qu'une situation se présente, y compris dans la vie réelle. Et parfois, on les écrit vraiment, mais...
C'est quoi tes fandoms de préférence? Est-ce que tu écris dessus? Est-ce que... Il y a des propriétés intellectuelles que tu veux pas aborder? Est-ce qu'il y a des trucs que toi, t'aimes faire? Est-ce que t'es une grande fan de gender swapping? Est-ce qu'il y a une différence entre qu'est-ce que tu aimes écrire? Je te lance plein de questions, parce que je veux tout savoir à propos de toi, là, mais comme, est-ce qu'il y a des grandes différences entre qu'est-ce que tu écris et qu'est-ce que tu lis?
Ah oui. Alors ça, j'en ai jamais vraiment parlé parce que c'est un peu délicat. Je pense que je ne sais pas exactement comment en parler non plus. Mais comme je disais, moi, l'identité de fan, je pense que je n'ai que marginalement, en fait. Et mon seul vrai fandom actuellement, c'est vraiment Twin Peaks, pour lequel, là, j'ai quand même écrit un certain nombre de choses. J'ai des choses en cours. Et en plus, je viens surtout, et c'est là que je mets un peu ma frontière, de participer à un échange de fanfiction. C'était ma première expérience dans ce type et que je trouve très intéressante, à savoir, le principe, c'est qu'on réunit un certain nombre de gens qui sont intéressés et chacun fait une espèce de liste de souhaits, de qu'est-ce qu'il veut recevoir comme texte ou comme art, avec des exemples, finalement, des bouts d'histoire ou des personnages qu'on a envie de voir. Et on reçoit en retour la liste de quelqu'un et voilà, il faut écrire pour cette personne, un peu selon ses souhaits, et ensuite c'est partagé plus globalement. Et ça, je trouve que c'est une manière de produire des textes, de produire des nouveaux textes aussi, qui vont enrichir l'archive éventuellement, qui est très très intéressante, parce qu'il y a ce côté personnalisation, et en même temps c'est quelque chose de collectif. Et c'est dans cette économie du espèce de don contre don aussi intéressante dans la manière d'écrire, qui existe très peu dans le milieu officiel en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est mon fandom principal, parce que je me sens intégrée dans un fandom, dans un réseau aussi de sociabilité. Ensuite, j'ai pas mal écrit pour tout ce qui tourne autour de Lemony Snicket, donc Orphelin Baudelaire et ses autres séries. Mais là, c'est plus dans des relations amicales préexistantes, IRL, j'ai envie de dire, avec un de mes amis avec qui on a développé tout un jeu de rôle autour de cet univers-là, y compris séries d'énigmes dans la vraie vie, chasse au trésor, etc. Où les textes viennent se surajouter à ça. Donc ça a été ça. Par contre, oui, il y a vraiment un écart entre ce que j'écris et ce que je lis, parce que je me rends compte que je suis très, comme je disais, je suis assez marquée par les critères académiques, mais dans l'écriture. C'est-à-dire mon rapport à ce que j'écris, j'ai l'impression parfois de l'aborder avec des choses où je me dis « Ah, ça va être intéressant », et ça finit par être ce que l'université appellerait un peu expérimental, qui va moins, peut-être moins plaire ou qui va moins marcher parce que... c'est pas les mêmes critères, finalement. Et là, je le sens et je me dis, mince, est-ce que je suis une vraie fan? Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, par contre, j'ai l'impression que dans la lecture, je suis beaucoup moins influencée par ce système-là de valeurs et que je vais lire extensivement beaucoup plus de choses et en étant très heureuse, finalement, de lire extensivement des choses très différentes. Voilà. En fait, le dernier bastion, c'est l'écriture. Il faut que je me déconstruise là-dessus aussi, peut-être, plus.
C'est quelque chose qui me fascine énormément par rapport à la fanfiction, c'est la... Bien, évidemment, il y a le rythme de production, qu'on voit que, évidemment, ça tient sur les épaules d'énormément de créatrices passionnées. Mais il y a aussi cette idée-là que, et c'est très populaire, cette notion en fanfiction, que l'on ne peut pas s'arrêter d'en lire. Une fois que le processus est enclenché, il y a une boulimie littéraire qui est, à mon avis, extrêmement agréable à vivre, mais qui manque peut-être à tout le canon institutionnel qui, bon, t'as le livre, je sais pas quel effet de lecture fait en sorte qu'on dirait qu'on peut lire une fanfiction plus rapidement, qu'on peut lire une œuvre papier, malgré qu'il y a peut-être le même type de caractère ou parfois même des fanfictions avec beaucoup plus de caractère que des livres chez Folio, par exemple. Mais en lisant tellement, on se retrouve à avoir des grands coups de cœur, des grands best-of qui... pour mon expérience personnelle, deviennent comme une espèce de moteur pour continuer à l'en lire. Quand t'en lis une qui est extraordinaire puis qui vient vraiment te chercher, ben là, tu vas en lire comme quatre autres en fil dans l'espoir qu'on va retrouver celle-là. Puis qui sait, elle arrive peut-être à la sixième, à la septième ou à la onzième, mais tu reviens. Et à mon avis, cette dynamique-là fait en sorte qu'on se retrouve à avoir tous des suggestions. Puis bon, je dis ici...
Oui, tout à fait. Bah, je vais en suggérer, mais d'autant plus que là, mes suggestions viennent de petits fandoms, parce que là, on parle de fandoms littéraires qui sont moins représentés. Mais ce que tu décris, effectivement, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire le rapport institutionnel à une œuvre fermée qu'on est censé lire un petit peu lentement, savourer et qui est unique, versus ce rapport finalement à des variations et à une lecture quantitative. Finalement, Mansfield Park, ou qui résume l'intrigue de Mansfield Park, en changeant la couleur de peau de l'héroïne, mais en ne le signalant pas. C'est-à-dire que Le principe de Mansfield Park, c'est qu'on a Fanny qui vient d'une famille pauvre et qui est recueillie par son oncle et sa tante qui ont beaucoup d'argent et qui vont la traiter avec beaucoup de condescendance parce qu'elle vient d'un milieu plus modeste. Mais dans ce contexte-là, Fanny est métisse, on s'en rend compte à la fin du texte, et ça jette une lumière tout à fait nouvelle sur le traitement qu'elle subit. Et ça met en perspective autre chose, qui est finalement le contexte colonial à l'arrière-plan de l'œuvre de Jane Austen, mais exactement de la manière dont Edward Said a pu l'analyser. C'est-à-dire que c'est un texte qui se trouve avoir une énorme résonance avec les analyses de Said, qui analyse Jane Austen et qui analyse spécifiquement Mansfield Park et les rapports coloniaux dans Mansfield Park dans Culture et impérialisme. C'est un des chapitres hein, qui parle de Jane Austen et de l'Empire. C'est le titre du chapitre. Donc voilà, c'est très frappant par les relations théoriques, évidemment, moi ça m'avait interpellée, mais en plus c'est un très beau texte et c'est un usage très intéressant en fait du... Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, est-ce que c'est un color swap, hein, quand on change la couleur de peau. Fin. Deuxième recommandation, c'est une fanfiction d'Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle The Red Country, donc le Pays Rouge, de Gibralis. Toujours sur Archive of Our Own, qui est un petit peu mon archive préférée, hein, je l'avoue. Pour des raisons diverses d'architecture et puis surtout d'idéologie, c'est l'archive gérée par des fans qui est un petit peu la seule dans son genre. Et ça lui donne des caractéristiques assez différentes et une maniabilité aussi assez appréciable. Alors ça, c'est une très longue et très très belle fanfiction d'Alice au Pays des Merveilles, qui développe une romance entre des personnages qui correspondront ou qui correspondraient à la Reine Blanche et à la Reine Rouge. Donc c'est du femme slash, enfin, c'est avec une grosse intrigue par ailleurs. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi un texte qui permet d'approcher la réappropriation d'un univers fictionnel par ces personnages féminins. C'est-à-dire que dans ce texte, ce sont ces deux jeunes filles qui deviendront la Reine Rouge et la Reine Blanche qui créent ou qui finalement s'approprie le Pays des Merveilles. Et on croise Lewis Carroll en insert dans cette histoire, mais qui finalement est une espèce de témoin, qui peut-être va avoir vent de cette histoire, qui peut-être va la voler, on ne sait pas trop. Et voilà, ça pose un peu des questions sur le statut de l'auteur dans la fanfiction, de l'auteur original, de la figure d'auteur consacrée. Donc je l'aime beaucoup pour plein de raisons, parce que voilà, encore une fois, très beau texte, très émouvant. Excellente caractérisation. Et puis, il y a ces questions-là qui, moi, m'intéressent aussi. Et puis, petite dernière, Je suis Crisis, du coup, Je suis Crisis, qui est le fameux rap sur la Bible par un de mes anciens étudiants qui, d'ailleurs, était en échange Erasmus à Paris, donc qui venait d'Espagne. Mais je pense qu'il est bilingue, ou en tout cas, c'est incroyable en français, son rap marche du tonnerre. Et donc, écrit par le pseudonyme Jésus Crisis, du coup, qui reprend à la fois des thèmes traditionnels du rap et qui les mélange à un contexte biblique. C'est très drôle, c'est très bien écrit. Voilà, enjoy.
Wow, c'est incroyable. Merci énormément. Vraiment, merci beaucoup pour ta présence, Marion. C'était vraiment, vraiment intéressant de parler. Merci beaucoup. Puis on va, évidemment, parce qu'on va écouter tes suggestions, on va finir en écoutant Crisis, parce que faut propager cette bonne nouvelle.
Ma mère ne voulait pas de moi, elle s'est fait violer. Je sais pas qui est mon père, il s'est envolé. Salam à Jérusalem, Jérusalem, Salam à Jérusalem. J'étais gosse en 2008, j'étais la crise. Et maintenant je suis master of ceremonies. Je me demande where is the love, mieux que Black Eyed Peas. C'est pour ça que tout le monde m'adore, bless Jesus Crisis. Bless me, bless me, bless Jesus Crisis. Bless me, bless me, bless Jesus Crisis. Comme tout le monde devient stérile dans ce monde de vieux. Dès que ma mère était enceinte, on m'a pris pour Dieu. Un gamin sans in vitro, c'est miraculeux. Quand tout le monde passe la journée à fumer de la beuh. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Salam à Jérusalem. Je pourrais faire des millions, mais je m'en fous du fric. Ils veulent tous me faire la guerre, mais je suis pacifique. Moi je dis fuck les entreprises, j'ai même pas WhatsApp. Et quand je dis fuck entreprise, je dis fuck le pape. Pour ceux qui savent toujours pas who the fuck je suis, moi je joue pas au Barça, mais je suis le Messi. S'il y a une bite qui veut de moi, c'est même pas la peine
Mettez-vous toute seule le doigt. Blaise Marie Madeleine. Moi je dis all you need is love, je suis comme John Lennon. Et je dis comme Bob Marley, bye bye Babylon. Tout le monde veut être dans ma bande, mais j'en veux pas d'autres. Dans ma clique on est que 13, Blaise mes 12 apôtres.
Bless me, bless me, bless Jesus crazies. Bless me, bless me, bless Jesus crazies.
À mes fêtes j'invite tout le monde pour les faire rêver. Du poisson, du pain, du vin jusqu'à en crever. Quand y'a des paraplégiques, je les fais se lever. Et je vous jure que samedi dernier, y'avait même Yaré.
Je voulais mourir tout jeune, comme les autres stars. Être du club des 27, mais ce sera plus tard. Moi je me ferais crucifier, à mes 33 balles. En plein milieu de la bourse, tente du capital.
J'étais gosse en 2008, j'étais la crise. Et maintenant je suis master of ceremonies. Je me demande where is the love, mieux que Black Eyed Peas. C'est pour ça que tout le monde m'adore, bless Jesus crazies.
Bless me, bless me, bless Jesus crazies. Bless me, bless me, bless Jesus crazies.
Même si on nous promettait le paradis, on refuserait. Parce que nous, on veut le prendre.